Il est midi ici à Paris, 13h à Kiev et à Moscou. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, nouvelle attaque massive sur l'Ukraine cette nuit, alors qu'un échange record de prisonniers entre Kiev et Moscou s'est achevé ce matin. Le président Zelensky appelle une nouvelle fois à plus de pression internationale pour faire céder le Kremlin. Sur fond de guerre en Ukraine, la campagne électorale se poursuit en Pologne. Rassemblement des deux finalistes à la présidentielle à Varsovie aujourd'hui. Le second tour s'annonce serré. L'extrême droite arrivée en troisième position au premier tour pourrait être faiseuse de roi le week-end prochain. Des électeurs appelés aux urnes aujourd'hui au Venezuela. Les bureaux de vote doivent ouvrir dans les prochaines minutes. Mais l'abstention s'annonce massive avec l'appel au boycott de l'opposition. Deuxième nuit consécutive sous une attaque aérienne massive en Ukraine. Les frappes russes ont fait au moins 12 morts. Julien Chavanne, bonjour.
Bonjour.
Ces bombardements interviennent alors que les deux pays ont terminé aujourd'hui le plus important échange de prisonniers depuis le début de la guerre.
Et les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti partout en Ukraine la nuit dernière. La Russie aurait lancé, selon Kiev, plus de 360 projectiles, 70 missiles, près de 300 drones. Les services d'urgence ukrainiens parlent d'une nuit de terreur dans toute la région de la capitale. Deux enfants âgés de 8 et 12 ans et un adolescent de 17 ans font partie des victimes. Ils ont été tués dans un bombardement russe près de Jytomyr dans le nord-ouest du pays. Les régions de Kherson au sud et de Ternopil dans l'ouest ont aussi été visées. Côté russe, le maire de Moscou fait état de plus d'une dizaine de drones ukrainiens au-dessus de la capitale russe, mais sans signaler de victimes. Quatre aéroports moscovites ont été fermés quelques heures avant de rouvrir ce dimanche.
Le président ukrainien appelle encore une fois ses alliés à faire pression sur la Russie.
Et à prendre des sanctions contre Moscou, le silence de l'Amérique, le silence d'autres pays dans le monde ne fait qu'encourager Poutine, a écrit Volodymyr Zelensky sur ses réseaux. Sur le terrain, rien ne change donc, les frappes continuent, même si les dernières libérations de prisonniers de guerre prévues entre Kiev et Moscou ont eu lieu ce matin. 303 Ukrainiens contre 303 Russes. Ces trois derniers jours, 2000 personnes détenues ont au total été libérées.
Julien Chavanne du service international de RFI. En Pologne, chaque camp mobilise ses troupes à l'approche du second tour de la présidentielle. En ce moment, deux rassemblements se tiennent à Varsovie. Celui des pro-européens, soutien du maire de la capitale, et celui des nationalistes. Opposition marquée entre les deux candidats sur le soutien à l'Ukraine. Ils sont au coude à coude dans les sondages. Le scrutin aura lieu dimanche prochain. Et les électeurs du candidat d'extrême droite, arrivé en troisième au premier tour, pourraient faire basculer le vote. Les explications à Varsovie d'Adrien Sarlat.
L'élimination de Sławomir Mentzen dès le premier tour dimanche dernier avait des airs de victoire. Le candidat réactionnaire a bien compris que le report des voix de ses électeurs pourrait bien décider de l'issue du second tour, mais il s'est bien gardé de leur donner une consigne de vote.
Les électeurs ne sont pas des sacs de patates, on ne se les transfère pas d'un candidat à l'autre comme ça. C'est pourquoi j'invite les deux candidats du second tour à venir discuter sur ma chaîne YouTube.
Une invitation qui s'accompagne d'une condition, s'engager à respecter 8 principes chers aux électeurs de Mentzen une fois élus. Lors de son passage jeudi, Karol Nawrocki a signé la déclaration d'intention rappelant les similarités entre son programme et celui de son hôte. Mais hier soir, Rafał Trzaskowski s'y est refusé, s'opposant frontalement à la moitié des engagements proposés par le candidat malheureux du premier tour.
Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez, il y a plein de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Sławomir Mentzen. Ma vision n'a pas changé, même si elle n'est pas du goût de tout le monde. Cependant, il y a des thèmes sur lesquels on peut arriver à un accord.
Souligner ses points communs avec l'extrême droite sans pour autant trahir son électorat libéral, l'exercice est périlleux mais nécessaire pour le maire de Varsovie s'il veut avoir une chance de l'emporter dimanche prochain. Adrien Sarlat, Varsovie. RFI.
Aucun répit à Gaza, les frappes israéliennes s'enchaînent, déjà 8 Palestiniens décédés ce matin. La défense civile a annoncé hier la mort de 9 enfants d'un couple de médecins tués lors d'un raid aérien dans le sud de l'enclave. L'armée affirme avoir ciblé un bâtiment adjacent et dit enquêter sur la mort de civils dans l'opération. En Israël, comme chaque samedi soir, une foule s'est rassemblée à Tel Aviv pour protester contre la politique du gouvernement. Une banderole géante, sauver les otages, mettez fin à la guerre, a été déployée. Les bureaux de vote doivent ouvrir en ce moment même au Venezuela, jour d'élection pour renouveler les maires, les gouverneurs et les députés. Des scrutins après la victoire controversée de Nicolas Maduro à la présidentielle l'été dernier, dont les détails du vote n'ont jamais été rendus publics. La chef de l'opposition, Maria Corina Machado, a appelé au boycott, prédisant des bureaux de vote vides. Les enquêtes prévoient une abstention élevée entre 70 et 80%. Alice Campagnol à Caracas.
Ils veulent te voir vaincu, mais non. Le 28 juillet, nous avons voté. Le 25 mai, c'est non.
Les mots de Maria Corina Machado, la très populaire dirigeante de l'opposition, résonnent chez une grande partie des Vénézuéliens. Son mot d'ordre sera certainement très suivi. Aujourd'hui, les enquêtes prévoient une participation très basse. Benigno Alarcón, du Centre d'études politiques et de gouvernement.
La plupart des gens pensent que désormais voter n'a plus aucun sens. Selon nos calculs, le niveau de participation va osciller entre 16 et 22% environ.
Une abstention massive qui laissera donc le champ libre aux partisans du gouvernement.
Et cela va évidemment faire gagner le gouvernement, car 80% des personnes, voire plus, qui vont voter sont des électeurs pro-gouvernement, les seuls qui croient encore dans les autorités électorales et dans l'élection.
Malgré l'importance de ce scrutin pour la vie quotidienne des Vénézuéliens, c'est aujourd'hui que se choisissent leur maire ou leur député. Les bureaux de vote ne se rempliront certainement pas. Le pays tourne une fois encore le dos au processus électoral dans lequel il n'a plus aucune confiance. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
En France, les citoyens sont invités à compter ce week-end les oiseaux de leur jardin. Ce grand comptage national lancé par la Ligue de protection des oiseaux permet de collecter massivement des données qui permettront par la suite aux scientifiques de suivre l'état de santé de ces populations d'oiseaux. Une nécessité alors que depuis 10 ans, les effectifs de 40% de ces espèces ont diminué selon les recensements de la LPO. Cette opération permet aussi de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux. Reportage à Paris de Juliette Pietraszewski.
Point blanc, donc ce sont des étourneaux sans sonner.
Au milieu des arbres, Sophie écoute attentivement les membres de la Ligue de protection des oiseaux.
Je me suis aperçue depuis 2 ans, puisque j'ai une mangeoire et je vois moins d'oiseaux sur les mangeoires. Parce que j'ai des hôtels à insectes aussi, je les vois plus.
Un constat qui ne surprend pas Justine Fredin, bénévole au sein de la LPO. Depuis une dizaine d'années, le nombre d'oiseaux insectivores est en déclin dans les jardins, mais ce ne sont pas les seuls.
L'utilisation des pesticides qui font complètement détruire les populations d'insectes, c'est vrai que c'est les premiers touchés, mais ne pas sous-estimer non plus les dommages qui peuvent être faits pour les granivores, puisque les herbicides également qui vont tuer les entre guillemets mauvaises herbes produisent des graines sauvages dont les oiseaux granivores peuvent se nourrir.
À proximité, Elodie tend l'oreille pour identifier le chant des oiseaux. Participer à ce grand comptage national est essentiel, explique-t-elle.
C'est triste, donc apprendre aussi quels sont les gestes à faire pour protéger, c'est quelque chose qui m'intéresse également.
Du coup, en rentrant, vous allez mettre quelque chose sur votre balcon?
Je vais voir justement la petite mangeoire qui n'attire pas les pigeons, mais qui attire les autres oiseaux.
Et plus il y a de participants, mieux c'est. Noélie Chérier est bénévole au sein de la LPO.
Moi, je suis très sensibilisée à tout ce qui est science participative, en fait, savoir grâce au plus grand nombre les évolutions des populations d'oiseaux. C'est un premier pas vers la préservation, en fait, de cette biodiversité.
Et la LPO espère une forte participation citoyenne pendant tout le week-end.
Raphaël Nadal, 38 ans, revient à Paris, à Roland-Garros cette année, mais sans raquette en main. Un hommage lui sera rendu aujourd'hui alors que le tournoi ouvre ses portes. 14 fois vainqueur ici, le jeune retraité du tennis devrait être très applaudi. Roi incontesté de la terre battue. Côté compétition, la numéro 1 mondiale, la Biélorusse, Arina Sabalenka, foule la première, le court Philippe Châtrier. Le match commence à l'instant. De la prison d'Evin, le palmarès de Cannes était très attendu. C'est ce qu'a révélé Jafar Panahi, qui par deux fois a été incarcéré avec bien d'autres dissidents dans le célèbre centre de détention de Téhéran. Le réalisateur iranien très ému a décroché la Palme d'Or hier soir pour son dernier long métrage, Un simple accident tourné clandestinement. Jafar Panahi a juré ne pas avoir peur de rentrer en Iran après Cannes. Le jury a aussi créé un prix spécial pour Résurrection, film épopée du chinois Bigan, qui a 35 ans. Voilà tout de suite Religion du Monde sur RFI.